Et ce matin, je crois que le Seigneur veut nous parler parce que nous avons un adversaire. Nous avons un adversaire et cet adversaire, il peut nous attaquer par les persécutions à l'extérieur. Nous devons garder dans la prière nos frères chrétiens qui se trouvent prisonniers des talibans en Afghanistan. Eux, ils voient ce que c'est que la persécution extérieure. Mais l'ennemi, Satan, l'adversaire, il sait que quand il ne peut pas attaquer de l'extérieur, il est facile d'attaquer de l'intérieur. Il va essayer de semer la zizanie dans l'église de l'intérieur. Et lorsqu'on voit les églises qui se divisent, les églises qui se disputent, on voit que bien souvent, il y arrive assez facilement. Alors on l'a déjà remarqué, Paul aime bien nous dire, il y a des vérités qui sont très importantes dans la Bible. Il y a des éléments de notre vie chrétienne que vous connaissez mal. Il le disait aux personnes à qui il écrivait. Des vérités qu'on ne comprend pas très bien. Ce qui est malheureux, mais je crois que si ces vérités étaient difficiles à comprendre à l'époque, elles le sont restées quelque part. Et on avait dit que souvent il disait « Frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants ». Et quand il disait ça, on peut être sûr que non seulement à l'époque ils étaient ignorants, mais qu'aujourd'hui encore il y a beaucoup de confusion. Pourquoi ? Parce que on ne prête pas attention à ce qu'il nous dit, et que si ce sont des choses qui marchent, des ignorances, c'est parce que quelque part nous sommes faibles et nous sommes encore susceptibles d'ignorer ces choses. On avait vu en étudiant 1 Corinthiens 12, il disait « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Et on avait dit qu'à Corinthe, il y avait une grande ignorance. Et on voit qu'aujourd'hui encore, il y a une grande ignorance ce qui concerne les dons. Les gens, souvent, qui se réclament de ces dons, font exactement ce que Paul voulait éviter dans l'Église. Notamment le brouhaha, la confusion, l'orgueil qui ressort de ces dons. C'est un premier exemple. Et pourtant, les dons spirituels, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que l'ennemi cause la confusion, je crois. L'enlèvement de l'Église, c'est un enseignement qui est souvent ignoré aujourd'hui. Il y a des églises où on n'entend jamais parler des derniers temps parce qu'on se dit l'étude des prophéties de l'Apocalypse, c'est trop compliqué, c'est trop symbolique, on n'y comprend rien, n'y touchons pas. Et pourtant, Paul avait dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous nous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Il voulait leur apprendre que pour le chrétien, soit il va mourir et être avec le Seigneur, soit le Seigneur va revenir pour enlever son Église. Israël et les Juifs. Il y a une grande spiritualisation qui a été faite en disant qu'en fait, Israël a été remplacé dans le schéma prophétique par l'Église. Et pourtant, on sait que Israël va rester une entité dans le plan de Dieu, dans la prophétie. Et Paul expliquait dans Romains 11, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage, il y a endurcissement partiel d'Israël jusque la totalité des païens soit entrée. » Et donc, on a vu l'an dernier notre équipe de Juifs pour Jésus, et c'est vrai que le travail qu'ils font est un travail nécessaire, mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout Israël vienne à Christ tant que le dernier des païens n'a pas été converti, le dernier qui a été prévu. Donc il y a des tas de choses qui sont dans la Bible, et Paul était là, ne soyez pas ignorants. Il nous dit aujourd'hui, ne soyons pas ignorants de ces choses. Et notamment, je crois qu'aujourd'hui on a quelques petits problèmes techniques. Rain essaye d'enregistrer les messages sur l'ordinateur. Donc, n'y prêtez pas attention. Prêtez attention, c'est vrai que ça fait une différence de volume. Aujourd'hui, Nous allons trouver un passage, un verset, verset 11 de 2 Corinthiens 2, où il dit « Il ne veut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et donc là, encore une fois, il veut nous mettre au courant de ce que l'ennemi a fait. Que si on parle de Satan, on va passer par des arriérés, des obscurantistes, des gens qui donnent foi à des vieilles légendes, qui sont, heureusement, avec la science, qui sont complètement dépassées. Dans quelques semaines, j'ai la tristesse de vous le rappeler, mais la France va se réjouir à célébrer la fête de Halloween. On va se déguiser en diable, en démon, en sorcière, en riant de ces choses. Et le diable, il se réjouit lorsqu'on le prend pour une légende, lorsqu'on le représente comme un personnage habillé de sous-vêtements rouges, avec une longue queue fourchue et un trident, dont on peut rire, dont on peut se moquer. Et pourtant, la Bible est très claire, nous avons un adversaire, un ange déchu, un ange qui était comme un astre brillant, un ange d'une grande beauté qui a voulu se faire aussi grand que Dieu. Il en est question dans Ésaïe, dans Ézéchiel. Et cette créature est une réalité, malheureusement. Si vous en doutiez, il vous suffit de voir ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il est le prince de ce monde. Les rumeurs de guerre, les malheurs, la misère, la violence sont là parce qu'il veut entraîner les hommes à leur perte. Il veut les entraîner à sa suite. L'enfer lui est promis. Et donc il veut emmener le plus grand nombre de personnes en les séduisant. Il les séduit avec le monde, avec le système de valeurs qui rejette Dieu. Et il peut les séduire, il peut nous séduire. Parce que nous avons une nature de pécheur, une vieille nature, qui est sensible aux séductions du monde. Satan, ça veut dire l'adversaire. Son nom, c'est aussi le diable. Le diable, ça veut dire celui qui calomnie. On verra qu'il est, décrit comme étant celui qui nous accuse devant Dieu, jour et nuit. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il nous dit de nous méfier du diable, de réaliser qu'il est là, prêt à prendre avantage sur nous. C'est ce que dit ce verset 11 de 2 Corinthiens. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, ses tactiques, ses stratagèmes, sa volonté. Et dans tout conflit, le principe, c'est de prendre l'avantage sur l'ennemi. Et l'idée du mot utilisé ici, c'est de prendre l'avantage en utilisant des moyens, même des moyens malhonnêtes, des moyens pervertis, peu importe les moyens. Ce qui compte, c'est la fin, c'est de prendre l'avantage sur l'autre. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher la faiblesse, là où les faiblesses de l'adversaire, voir ce qui le rend vulnérable. Le mot vulnérable, ça veut dire qui est capable d'être blessé. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a une réalité spirituelle, il y a un monde spirituel qui existe aussi vrai que ce pupitre. De démons, d'esprits mauvais, qui sont là à rechercher nos points faibles. Ils cherchent les brèches dans la muraille. Ils vont voir les défauts de notre caractère, nos tendances, nos faiblesses, les choses qui font que notre foi est faible. Et quelqu'un a dit, en fait, le grand livre des tactiques du diable, c'est un petit volume. C'est un petit volume. C'est pas très épais, il n'y en a pas des milliers des tactiques. C'est pas qu'il soit pas inventif, c'est un être remarquable d'intelligence et de puissance, mais il n'a pas besoin d'être très inventif. Parce que nous, nous ne sommes pas très malins et nous tombons toujours dans les mêmes pièges. Et aujourd'hui, nous allons voir au moins trois de ces pièges dans notre passage de 2 Corinthiens 2 à partir du verset 5. J'aimerais qu'on lise ensemble 2 Corinthiens 2, 5. On va lire jusqu'au verset 13. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. Car je vous ai écrit aussi afin de savoir en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en tout. Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est donc question de quelqu'un qui a attristé l'Église, qui a attristé Paul. Et vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 5, on avait parlé d'un homme qui avait commis un péché tel que un tel péché n'était même pas commis parmi les païens. Regardons ensemble 1 Corinthiens 5, c'est la page 189. Il était question d'un homme dont l'inconduite parmi eux était telle qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens. Et en fait, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On se souvient que Corinthe était connue pour sa débauche. Il y avait même un terme pour désigner une vie de débauche, on disait corinthianisée. C'était une grande ville commerciale, il y avait près de 400 000 habitants, beaucoup de soldats, beaucoup de marchands, il y avait beaucoup de prostituées, il y avait même un temple à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui était célébré avec des orgies sacrées. Et le mot inconduite, en fait, c'est le mot porneia, d'où nous tirons le mot pornographique. C'est tout ce qui concerne l'immoralité sexuelle, toute relation sexuelle en dehors des liens sacrés du mariage. Que ce soit l'adultère, l'homosexualité, la prostitution, la bestialité. Ici, il était question d'inceste. Il y avait un homme qui avait des relations sexuelles, pas avec sa mère, mais avec la femme de son père, on pense. Et c'est vrai que nous aussi, nous vivons dans un monde où l'immoralité est glorifiée, en quelque sorte. Les personnes que l'on va voir au cinéma se targuent ouvertement de leur débauche. Ils n'ont aucun problème avec les violations de la morale appelée traditionnellement judéo-chrétienne, le mariage, le respect de l'autre. Dans notre société, c'est bafoué à tour de bras. À l'époque, ces choses-là étaient interdites chez les chrétiens. L'Ancien Testament condamnait complètement ces choses-là, même de la peine de mort. On l'avait vu dans le Lévitique, dans Deutéronome, ces choses étaient complètement interdites. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, Cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Et c'est vrai que nous voyons l'enseignement de l'Ancien Testament, qui était très strict. Nous voyons aussi l'enseignement du Nouveau Testament. Il faut faire une distinction entre le péché et le pécheur. Dieu a pardonné à la femme adultère. Il lui a dit « va et ne pêche plus ». Il n'a pas dit « on va pas te lapider ». C'est la grâce du Seigneur, mais c'est pas pour autant dire que nous devons nous complaire dans nos péchés. C'est pas parce que la grâce abonde que le péché doit abonder. Et la question, c'est de savoir si nous, en tant qu'Église, nous avons chanté, nous avons besoin de pureté, nous avons besoin de sainteté. Est-ce que nous allons obéir au Seigneur et être des instruments de sainteté, de pureté, ou est-ce que nous allons nous laisser corrompre par le monde qui nous entoure? On ne peut pas voir un film maintenant sans acte sexuel. On a l'impression que même des films qui pourraient se tenir très bien, comme par exemple Titanic, qui n'avait pas besoin de montrer de relations sexuelles, on ajoute ça pour couvrir toutes les bases. Est-ce que nous allons influencer l'extérieur? Alors il ne s'agit pas d'aller tuer ceux qui se livrent au péché, mais est-ce que nous-mêmes, nous allons être des exemples de pureté dans notre vie? Et il semble que, toujours dans ce passage de 1 Corinthiens 5, au lieu de condamner la personne qui se livrait à ces actes horribles, cette personne, ils en faisaient un sujet d'orgueil. Ils disaient « qu'est-ce qu'on est libéraux, nous, qu'est-ce qu'on a ? On a vraiment l'esprit large. » Et au lieu de prendre le deuil que quelqu'un ait commis cet acte en leur sein, ils prenaient l'affaire à la légère. Et quelque part, ils se réjouissaient de leur largesse d'esprit. Aujourd'hui, on voit à la télé des programmes où l'immoralité est ouvertement prônée, l'homosexualité, toutes sortes d'immoralités sexuelles. Et vous remarquez que si quelqu'un a le malheur de faire une remarque concernant la morale ou l'immoralité, aussitôt le public va siffler. Et l'animateur, bien souvent, va aussi critiquer l'attitude de pureté, l'attitude de condamnation du mal. Et donc, un des premiers pièges de l'ennemi, ça va être les tentations sexuelles. Le sexe, c'est une invention de Dieu, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le sexe, c'est quelque chose de très beau, de très bon dans le cadre où Dieu l'a créé. Si le sexe est tellement dangereux, c'est parce qu'il est attrayant. Il y a en nous, Dieu a créé ce désir de relations sexuelles. Parce que je crois personnellement, parce que c'est une préfiguration de l'union que nous pouvons avoir avec Dieu. De la fusion. Et aussi pour assurer que la race humaine continue. Si le sexe n'était pas aussi plaisant, peut-être qu'on serait pas là. S'il fallait faire une corvée, peut-être que la race humaine se serait arrêtée. Peu importe les raisons, c'est le sexe est une belle chose. Et Satan l'a perverti. Satan a fait que c'est devenu une chose sale, c'est devenu une chose perverse. C'est devenu une chose exploitée. Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Dieu nous a créés de cette façon. Et tout ce que Dieu a créé est beau et bon. Peut-être que la tentation sexuelle ne sera pas un piège pour vous, mais à ce moment-là, peut-être ce sera les émotions. Peut-être pour une femme, ce sera de pouvoir partager, de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir de l'attention. Mais le diable, encore une fois, va savoir quelle est votre faiblesse. Et on ne doit pas se déprimer de se dire, mais c'est vrai, je suis sensible à ça. Si nous avons ces faiblesses, si ça représente un danger pour nous, nous pouvons savoir aussi que Dieu est là pour nous aider. Quelque part, nos faiblesses, lorsqu'elles sont reconnues comme telles et qu'elles nous conduisent à dépendre de Dieu, elles peuvent devenir des bonnes choses. Ce qui est dangereux, c'est de se croire fort. C'est souvent après des victoires spirituelles que Satan nous attend au tournant, lorsque nous avons l'impression d'être forts de par nous-mêmes. Et encore une fois, il faut croire que Dieu nous aime et que les commandements qu'il nous donne sont là pour notre protection. Il n'est pas là pour nous dire « je veux t'empêcher d'avoir du plaisir ». Il est dit « je t'aime tellement que je veux que ce plaisir tu le prennes dans le cadre où je l'ai créé, pour lequel je l'ai créé ». 1 Jean 5,3 nous dit « l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ». Si nous, nous disons que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, nous devons obéir à ses commandements. Mais la chose fondamentale, c'est de savoir que ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas là pour nous accaparer, pour nous donner un sentiment d'être complètement écrasé. Il nous dit que si nous voulons lui obéir, il nous donne sa force. Vous vous souvenez peut-être de cet homme qui avait la main abîmée, qui ne pouvait pas bouger sa main. Jésus lui a demandé de tendre la main. Et au lieu de dire « Mais Seigneur, c'est impossible », il a voulu dans son cœur obéir. Et aussitôt, lorsque nous avons le désir d'obéir, Dieu va nous donner la force, va nous donner la capacité d'obéir. Ça, c'est un des premiers dangers, donc. C'était la tentation sexuelle, l'immoralité sexuelle. Et combien d'hommes, même des hommes de Dieu, des serviteurs, des prêtres, des prédicateurs, tombent dans ce domaine. On le remarque plus quand ce sont des hommes qui prétendent servir Dieu ou qui veulent servir Dieu. Mais c'est quelque chose que le Seigneur utilise pour détruire la société. Nous voyons... Satan utilise ça pour détruire la société, il attaque la famille. Combien de divorces, combien d'enfants ballottés d'une famille à l'autre. Encore une fois, ces choses-là, c'est pas pour condamner, les gens sont des victimes de Satan. Les conséquences sont catastrophiques au niveau même d'une nation. Ça, c'est une des premières ruses de l'ennemi. Ne soyons pas ignorants, soyons sur nos gardes. Si nous avons cette faiblesse, demandons au Seigneur de nous garder, de nous aider. Ne nous mettons pas en présence de ces tentations. Deuxième ruse de l'ennemi, c'est d'inspirer en nous l'absence de pardon. L'absence de pardon. Dans 1 Corinthiens 5, Paul expliquait qu'il avait déjà jugé l'auteur d'une telle action et il avait demandé aux Corinthiens d'excommunier, de mettre à l'écart cette personne. Alors en faisant cela, il ne faisait pas office de Dieu, il suivait les prescriptions de Dieu. J'aimerais qu'on regarde ensemble Matthieu 18, 15. Où c'est Jésus qui expliquait ce que devait être ce qu'on appelle des fois la discipline dans l'Église. C'est-à-dire lorsque quelqu'un commet des péchés qui viennent à la connaissance d'une personne ou de plusieurs personnes, versets 15 à 17, si ton frère a péché, première chose, va et reprends-le seul à seul. s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais deux, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, troisièmement. Et quatrièmement, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager, c'est-à-dire un collecteur d'impôts qui était pour les Juifs sous l'occupation romaine considéré comme les plus bas des traîtres. Donc si vous êtes dans la connaissance, si vous savez que quelqu'un a commis un péché, la première chose à faire, c'est d'aller en frère reprendre la personne sans en faire étalage devant tout le monde. Personne d'autre n'a à savoir. On n'est pas là pour raconter des ragots, pour se complaire à parler des péchés des autres. Allez voir la personne et lui dire ce que tu as fait, tu le sais peut-être, est mal, il faut que ça se change, tu es d'accord, et si la personne reconnaît, alors l'affaire en reste là, et on a gagné un frère. S'il ne veut pas, alors pour éviter les discussions à n'en plus finir, la personne qui dit non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, mais si, tu as fait ça, on va avec un ou deux témoins pour reparler à la personne. Et là encore, la discrétion, on va pas dire, on va parler à deux personnes, avec deux personnes, mais tout le monde est au courant, pas pour l'instant. Et c'est bon d'avoir des gens qui sont prêts à confronter avec amour. Trop souvent dans l'Église, on n'aime pas confronter les problèmes. On a peur de fâcher les gens, on a peur que les gens vont partir, et puis de dire à quelqu'un ce que tu as fait n'est pas bien. Dans une société où il n'y a plus d'absolu, le seul absolu c'est qu'il n'y en a pas, on se sent un peu en porte-à-faux, on se sent peut-être mal à l'aise, on peut se sentir hypocrite parce qu'on n'est pas sans péché nous-mêmes. Mais ce sont les règles que Jésus nous a indiquées pour la santé de l'Église. Si ça ne marche pas, alors le problème devient public. Parce que les individus qui sont concernés doivent savoir que l'Église exerce une censure, que l'Église c'est pas simplement un club social où on se retrouve, mais que c'est quelque chose de... Encore une fois, c'est un organisme vivant, et un peu à la façon d'un organisme qui va repousser une maladie par un système immunitaire. Dans l'amour, il doit y avoir là aussi une mise en garde, et dire que telle personne qui a voler de l'argent ou a fait des choses malhonnêtes, de pas faire d'affaires peut-être financières avec elle, de mettre en garde. Et si la personne continue de s'obstiner dans son opposition, à ce moment-là, il faut qu'il soit comme pour toi comme un païen et un péager. Ça ne veut pas dire qu'on va les haïr, mais on va tenir à l'écart, pour ne pas donner l'impression que on admet le péché comme étant quelque chose d'admissible. Alors là, bien sûr, il faut vraiment utiliser de l'amour et ne pas se lancer dans une vendetta. Ce qui est très facile à faire si dans nos cœurs il y a vraiment pas d'amour. Est-ce qu'on critique l'autre pour, par comparaison, se mettre au-dessus, s'enorgueillir de « je m'abaisserai jamais à de telles choses » ou est-ce qu'on veut vraiment restaurer, est-ce qu'on veut vraiment aider l'autre personne? Et donc Paul disait concernant cet homme qui s'était livré à l'inceste avec la femme de son père, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors ça peut paraître très extrême, mais je crois avec certains commentateurs, il s'agissait de le mettre à l'écart pour que la personne arrive à comprendre que son style de vie, sa façon de vivre, son compromis ne sont pas des façons d'avoir la vie éternelle. Pour les amener à la repentance, qu'ils retournent vers le Seigneur Jésus et qu'ils sachent qu'ils sont sauvés, qu'ils peuvent revenir au salut. Ils n'ont pas perdu leur salut. C'est pas parce qu'on pêche qu'on perd son salut. Le salut vient de ce qu'on connaît Christ, qu'on l'a accepté dans son cœur une fois pour toutes. Et donc il semble, d'après les versets 5 à 10, on va lire ensemble, si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas une tristesse excessive. En sorte, oui, et je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. C'est toujours le mot final, c'est l'amour. La grâce de Dieu doit être manifestée dans notre amour, même pour ceux qui ont péché. Encore une fois, ce sont des victimes, ils sont aveuglés. Satan les a tentés, ils sont tombés dans le panneau. Nous ne pouvons pas admettre qu'ils continuent ainsi. Nous les reprenons, mais toujours avec amour. Et apparemment, c'était justement ce qui ne se passait pas à l'église de Corinthe. Satan, après avoir fait tomber une personne dans le péché, voulait éviter qu'il y ait cette restauration. Et donc les gens ne voulaient pas le pardonner. Et pourtant, Jésus a dit, tous ceux qui viennent à moi avec un cœur de repentance, je ne les rejette jamais. Il y a une différence, il faut faire attention, entre le remords et la repentance. Le remords, c'est de dire, je suis désolé pour le mal que le péché m'a causé personnellement. Ce qui me gêne, c'est pas tellement le fait que ce que j'ai fait n'a pas plu à Dieu ni aux autres, mais c'est que ça m'a causé des problèmes. Par contre, la repentance, c'est de dire, je suis désolé pour le mal que le péché a fait à Dieu et aux autres. C'est une optique tout à fait différente. Le remords regarde à lui-même, zut, je me suis fait pincer, zut, alors la prochaine fois je ne ferai plus, ou alors je le ferai mieux. La repentance, c'est de dire avec un cœur plein de contrition, de regret, j'ai fait du mal aux autres, je leur demande pardon, je veux changer. Le mot veut dire qu'on fait un demi-tour d'attitude dans notre pensée qui s'accompagne d'un demi-tour avec nos pieds. On change de pensée, d'attitude, et on change de conduite. C'est ça la repentance. Et on verra plus loin, Paul nous dira que il parlera de la différence entre la repentance selon Dieu qui mène au salut et la tristesse du monde qui produit la mort. Le fait de dire je me suis fait pincer, je ferai mieux la prochaine fois ou je suis triste, ça ne va pas conduire à la vie. Et donc il y avait ce problème, ils n'étaient pas prêts à pardonner. Pourquoi ? Notre pasteur Wayne Taylor dit qu'en fait, il est souvent difficile de pardonner quand on a été blessé nous-mêmes par le péché de l'autre. Parce que le péché, sa nature, c'est d'être destructeur, destructif. Les deux mots sont bons, mais la même idée. Causer l'anéantissement, causer de la peine, de la confusion, détruire. Ce qui est bon de se rappeler, c'est qu'en fait, même si nous sommes blessés, si quelqu'un a commis un péché grave à notre égard, notre douleur, notre peine, nous pouvons la donner à Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans Ésaïe qu'il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos douleurs. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et lorsque nous venons à lui, Il peut, il est dit dans Ésaïe 61, il peut nous panser, il peut nous restaurer, il peut nous soigner. Il peut même faire aller plus loin, il peut échanger notre peine contre de la joie. Nous chantons dans « Oh, je t'aime », en joie tu changes leur peine. C'est un texte biblique. Il donne la splendeur au lieu de la cendre, nous dit Ésaïe, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc la première chose, c'est d'oublier le mal qu'on nous a fait, de le donner à Christ, d'être capable de pardonner. L'autre attitude qui fait que c'est difficile de pardonner. C'est une attitude d'orgueil spirituel. Ce qu'on appelle la propre justice. Penser que nous, on est saints et que les autres ne le sont pas. C'est un peu une attitude de sainte nitouche hypocrite. Et c'est une attitude dont le Seigneur a absolument horreur. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus-Christ se mettre en colère contre les pharisiens, cette secte de juifs qui appliquait la loi à la lettre, qui occupait les postes de responsabilité religieux dans le pays d'Israël, qui était occupé. Et il leur disait, notamment, si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à lire par vous-même le chapitre de Matthieu 23. Et combien de fois il répond, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. » Et ne jamais penser que même si on n'a pas commis tel ou tel péché, on n'est pas capable de le commettre. Amen. C'est très important. C'est pas parce que si on se croit au-dessus de ça, alors à ce moment-là, l'ennemi aura vite fait de nous faire tomber. Nous devons tous reconnaître que nous sommes capables des pires péchés. Donner le temps, les circonstances, la pression, si ce n'était pas la protection de Dieu, nous tomberions dans n'importe quoi. Ésaïe 53 dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Parlant de Jésus qui a pris la punition que méritent tous nos péchés. Et le danger, c'est de faire des catégories dans le péché en disant que oui, faire l'adultère avec la femme de son père... La bestialité, l'homosexualité, l'inceste, violer des enfants, tout ça, ce sont des péchés horribles. En fait, j'aime bien ce que dit Wayne, notre pasteur, il dit, si on peut être pardonné par Dieu, c'est pas parce que nos péchés sont pas trop graves. Et Dieu merci, peut-être qu'on a jamais commis de meurtre, de viol, de péchés qu'on peut considérer comme des péchés graves et horribles. Mais Jésus disait justement à ces pharisiens, vous croyez que vous êtes purs, mais quand vous avez des pensées, parce que vous ne commettez pas l'adultère physiquement, mais moi je vous dis que lorsque vous regardez une jeune femme en disant, tiens, j'aimerais bien coucher avec elle dans votre inconscient ou dans le silence de votre cœur, c'est comme si vous l'aviez déjà fait. Les pharisiens croyaient pouvoir sauter être capable d'être sélectionnés parce qu'ils sautaient 1m50 et Jésus montait la barre à 6 mètres comme au saut à la perche pour qu'ils réalisent qu'ils n'étaient pas capables d'être qualifiés, qu'ils n'étaient pas capables d'être acceptés par leur propre mérite, leur propre justice. Si nos péchés sont pardonnés, c'est parce que Jésus a déjà payé le prix. Tout à l'heure, on a chanté « Fidèle et juste ». Et ce chant est tiré de 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, de toute perversion. » Il est fidèle et juste. Il faut d'abord que nous reconnaissions que nos actions sont mauvaises. Confesser, ça veut dire la même chose que Dieu, que ses actes sont destructifs, qu'ils ne font pas honneur à Dieu et qu'ils font du mal aux autres, qu'ils font du mal à Dieu. Il est fidèle et juste. Fidèle, on sait ce que ça veut dire, c'est qu'on peut venir à tout moment, il est toujours là, il va toujours le faire. Mais il y a le mot, il est juste pour nous pardonner nos péchés. Et on pourrait dire qu'en fait, si Jésus, si nous avons confessé nos péchés, si nous sommes venus à Christ, et si nous confessons nos péchés, il serait injuste de ne pas les pardonner. Fidèle et juste, d'accord. Mais si on chantait « Tu serais injuste si tu pardonnais pas », ce serait tout aussi vrai. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà payé le prix. Et ce serait aussi injuste qu'un commerçant malhonnête qui veut vous faire payer déjà deux, qui veut vous faire payer deux fois le prix d'un objet. Si nous acceptons le Seigneur dans notre cœur, alors nous sommes au bénéfice. Il a déjà payé pour nous, seulement si je l'accepte. Il a payé de façon intrinsèque, mais je ne suis au bénéfice de ce rachat que si j'accepte le fait qu'il a payé pour moi. Si j'accepte que j'ai besoin de payer, si j'accepte que je suis un pécheur et que lui a déjà pris la punition. Dans l'Exode, il était dit que le sang servirait de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous vous souvenez, c'était à la fin de la période des fléaux sur l'Égypte, où Dieu voulait que le Pharaon laisse rentrer le peuple d'Israël, les Juifs, dans leur terre promise. Et les Juifs, lorsque Dieu avait annoncé la dernière des pestes, des fléaux, le dernier des fléaux, il allait prendre le premier-né de toutes les familles égyptiennes. Mais il y avait l'ange destructeur qui passait et qui regardait s'il y avait du sang sur la maison, du sang sur la porte. Et c'est ce que les Juifs devaient faire. Ils devaient sacrifier l'agneau et mettre le sang de l'agneau sur leur porte. Parce que le sang servait de signe. Servait de quel signe ? Il voulait simplement dire que l'agneau avait déjà été sacrifié, que le péché avait déjà été payé symboliquement par cet agneau qui représentait l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, notre attitude d'orgueil de dire « je ferai jamais de telles choses. D'accord, je mens, j'ai pris quelques trombones au bureau, mais rien de bien grave. » Que cette attitude ne soit jamais dans nos cœurs, cet orgueil spirituel. Qu'on soit pasteur, qu'on soit missionnaire, qu'on soit maman, qu'on soit, admettons humblement devant Dieu, que nous sommes capables de pires péchés. Et que si ce n'était pas la grâce de Dieu qui nous protège, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous donne la force de résister, notre nature de pécheur, elle se régalerait à faire des choses incroyablement basses et abjectes. C'est humiliant, mais lorsque nous nous humilions devant Dieu, lui peut nous élever. Tant que nous avons notre propre orgueil, il ne peut pas nous honorer cela. Vous vous souvenez du serment de Paul Evans, il y a quelques semaines. Le but de Dieu, c'est sa gloire. Nous devons glorifier le Seigneur. Et ce n'est pas en nous glorifiant nous-mêmes de nos capacités que nous pouvons le glorifier. Et donc l'idée, c'est de ne pas mettre de limite à la grâce de Dieu. Et ma prière, c'est que dans notre Église, il y ait cet esprit de pardon, qu'il n'y ait jamais cet esprit d'orgueil spirituel. Le troisième danger dont il est question, le troisième attaque de l'ennemi, c'est l'anxiété, c'est la dépression. Verset 12, lorsqu'il fut arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Ici, on voit le grand apôtre Paul succomber à l'inquiétude, au découragement. Et pourtant, là, il est passé à Troas. Troas, c'était le port d'embarquement pour aller vers la Macédoine, en haut de l'Asie, de la Turquie moderne, vers le détroit du Bosphore. Il y avait une opportunité de témoigner, mais il était découragé parce qu'il n'avait pas de nouvelles de Tite, son frère, qu'il devait retrouver. Il se sentait isolé, il se sentait un peu démoralisé. Et donc, le grand apôtre Paul qui a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes », Philippiens 4, 6, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lui qui avait écrit ces paroles, il n'était pas capable de les mettre en pratique. Quelque part, ça doit nous encourager de voir que même l'apôtre Paul, il y avait des moments où il succombait à la dépression, au découragement, à l'anxiété. Et la conséquence, c'est qu'il a gâché une occasion d'évangéliser. Plus tard, on en reparlera de 2 Corinthiens 7. Il a finalement retrouvé Tite. Le Seigneur lui a donné des occasions de revenir à Troas et d'y exercer son ministère. C'est là, si vous vous souvenez, qu'un certain chrétien nommé Eutychus était tombé pendant un long sermon de Paul. Mais il y avait toute une communauté qui s'était développée de chrétiens. Donc, le Seigneur a donner une deuxième chance à Paul. Et nous aussi, si nous succombons à la dépression, si nous sommes toujours à nous soucier de ce qui ne va pas, de tous, nous devons nous mettre en garde en tant qu'Église de la dépression qui se communique. Si quelqu'un est déprimé, et que nous, ça ne va pas très bien non plus, alors on est très réceptif. Ah là là, c'est vrai. Ou on peut commencer à... La dépression, ça va conduire à la critique, ça va conduire au clic, ça va conduire aux divisions. La dépression, c'est l'arme favorite de Satan, le découragement. Parce que lorsque nous sommes découragés, alors là, nos barrières sont tombées et il peut nous tenter avec toutes sortes d'autres péchés. Satan, il est vraiment diabolique, c'est le cas de le dire. Il est machiavélique. Et son petit livre, il y a un très bon livre d'ailleurs, Les Tactiques du Diable par C.S. Lewis qui a été traduit en français, donc qui s'appelle Les Tactiques du Diable ou Diaboliquement Vôtre, qui sont les conseils d'un ancien démon à un jeune novice. Et c'est un livre plein d'idées subtiles sur comment nous pouvons nous laisser mener en bateau par l'ennemi et par ses acolytes, les démons. Il nous tente, on tombe dans le panneau, et puis après, il nous accuse. Il dit, regarde ce que tu as fait, c'est vrai que Dieu ne peut pas t'aimer maintenant. Et on est là, oui, c'est vrai. Moi, j'ai plus d'espoir. Donc, il nous met là dans le découragement. Il nous utilise après pour décourager d'autres personnes. On n'ose rien faire, on ne va pas prendre avantage des opportunités qui se présentent pour témoigner, pour dire que le Seigneur est bon, qu'il est merveilleux, parce que notre vie ne le reflète pas, on est malheureux, on doute même de son amour dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'on va aller témoigner? Il nous neutralise avec la dépression, avec la fatigue, avec le découragement. Il nous accuse, nous dit la Bible, jour et nuit devant Dieu. Mais encore une fois, si nous reconnaissons que nous sommes faibles, nous parlerons des échardes dans la vie de Paul, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on pense que c'était peut-être des péchés qui lui faisaient des faiblesses qui lui faisaient pécher de temps en temps et qui le forçaient à venir à Dieu sans arrêt et à dire « Seigneur, tu vois combien je suis faible, j'ai besoin de toi. » Parce que la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que Satan est une créature. Souvent, on a l'impression que c'est un combat du bien et du mal. On met les deux au même niveau et c'est comme nous sommes la corde sur laquelle tire Satan et Dieu. Mais c'est complètement faux. Ça, c'est encore une idée que Satan, une idée qu'il a dans son petit livre de comment les faire tomber. C'est de nous donner l'impression qu'ils sont à égalité et que on a autant de chances de tomber d'un côté que de l'autre. Non, Satan, c'est un ange qui avait été créé par Dieu, qui était merveilleusement doué, et qui par orgueil a voulu prendre la place de Dieu. D'où la haine de Dieu pour l'orgueil. C'est la base du péché, l'orgueil. Et ce qui est bon de savoir, c'est que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, celui qui est en vous, il habite en vous par son Esprit Saint, il est présent dans votre cœur, dans votre vie. Il est bien plus grand que celui qui est dans le monde et qui essaye de vous faire peur. Vous pouvez courir à Dieu. Son nom est une tout comme une haute tour, le juste peut s'y réfugier, on peut être protégé, on peut courir à Dieu Et si vous êtes sincère, vous admettrez que quand ça ne va pas, c'est parce que vous ne pensez plus à Dieu. Si lorsque vous êtes déprimé, vous prenez votre Bible et vous commencez à lire en demandant à Dieu de vous encourager, je peux vous garantir qu'il va le faire. Mais si nous évitons Dieu, alors si nous courons loin de lui, alors là, nous sommes la proie de Satan. Encore une fois, Pierre dit qu'il était comme un lion qui cherche à dévorer, qui rôde. Et lorsqu'il nous voit loin de Dieu, il a vite fait de nous accaparer et de nous détruire. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous commencerons dans la suite, nous verrons ce qui est en fait comme un défilé de triomphe de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, verset 14, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça, c'est une allusion aux victoires qui étaient célébrées à Rome par des grands défilés sous des arcs de triomphe. Et Dieu nous fait toujours triompher par Christ, en Christ. Si nous sommes en Christ, nous avons la victoire. Paul ne veut pas que nous soyons ignorants de ces tactiques. Soyons vigilants, soyons prêts à reconnaître, soyons rapides à reconnaître quand les choses ne vont pas, lorsqu'on sent qu'il y a peut-être des disputes dans l'Église, peut-être qu'il y a des malentendus, il y a du découragement, il y a des conflits. Est-ce que Satan n'est pas là avec ses gros sabots? Même s'ils sont fourchus, ses sabots sont gros. Et encore une fois, c'est pas ma force contre la sienne. C'est la force de Christ qu'il a vaincu à la croix contre la sienne. Amen. Prions. Seigneur, merci pour Paul et sa perspicacité que tu lui as donnée, Seigneur, pour nous rendre vigilants, Seigneur. C'est vrai que nous sommes faibles, Seigneur, nous sommes capable de toute mauvaise chose, sans ton secours, sans ta transformation. Merci qu'en toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont belles, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de nous garder de ces problèmes. Tout ce qui concerne le domaine de la sexualité, Seigneur. Une si belle chose que tu as créée pour eux, pour notre bonheur, Seigneur. Et comment, croyant trouver le bonheur en te désobéissant, Seigneur, nous multiplions les malheurs de toutes sortes. Seigneur, garde-nous, surtout dans notre société, dans notre monde de médias pervertis, Seigneur. Garde nos cœurs, nous avons besoin de pureté, Seigneur. Seigneur, nous te demandons aussi de nous remplir de ta grâce, pour pardonner, pour aider ceux qui peuvent chuter, ceux qui ont besoin d'avoir l'espoir qu'une fois qu'ils sont confessés leurs péchés, qu'ils ont un désir de changer, une vraie repentance, Seigneur, alors ils sont accueillis à bras ouverts, Seigneur. Nous nous réjouissons ensemble parce que nous savons tous que nous sommes capables de nous trouver dans cette situation. Merci, Seigneur, que dans ta parole, tu as dit que si nous venons à trouver un frère dans le péché, Seigneur, alors nous devons le reprendre avec un esprit de douceur, Seigneur, et non pas avec un esprit de dureté, et qui nous dit de prendre garde à nous-mêmes, de peur que nous aussi nous ne soyons tentés, Seigneur. Finalement, Seigneur, je veux te demander de nous aider à reconnaître l'anxiété, le souci, le découragement, la dépression pour ce que c'est vraiment. Des armes que l'ennemi utilise pour nous faire chuter aussi. Seigneur, je te prie de nous garder, même dans des circonstances difficiles, de ce sentiment que plus rien ne va plus, qu'il n'y a plus d'espoir. C'est tellement contraire à tout ce que tu viens nous dire, Seigneur. C'est tellement contraire à la vérité. Seigneur, encourage-nous. Seigneur, garde-nous de la dépression qui est contagieuse, Seigneur. Aide-nous au contraire à être ceux qui encouragent, ceux qui ramènent les gens vers toi et vers ta grande bonté, vers ta grâce. Seigneur, merci pour cet enseignement. Et j'aimerais proposer à ceux qui n'ont jamais reçu encore le Seigneur dans leur cœur de le faire aujourd'hui. si vous voulez être pardonné, si vous pouvez recevoir le pardon pour n'importe quel péché, les péchés les plus terribles, vous devez vous mettre au bénéfice du prix que Jésus a payé. Il a payé la rançon, mais encore faut-il que vous acceptiez ce paiement. Comme si quelqu'un veut vous payer pour des achats, si vous n'acceptez pas, vous devez payer. En priant une prière qui dit dans le silence de vos cœurs, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. » Et Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes y habiter, Seigneur, pour que tu prennes le contrôle de ma vie. Merci pour ton Esprit Saint qui vient m'aider à vivre comme tu le veux. Aide-moi à me détourner de mes mauvaises pensées, de mes mauvaises actions, pour te glorifier. Merci Seigneur de venir dans mon cœur. Si vous avez prié cette prière, pendant que nous sommes tous dans une attitude de prière, je vous demanderai de lever la main pour que nous puissions prier pour vous et vous encourager. Encore une fois, c'est une prière essentielle. C'est la plus grande décision de votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en adjure, venez à Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité à nous pardonner, pour le fait que tu es juste et que tu nous pardonnes lorsque nous recevons cette vie que tu mets en nous, que nous te recevons dans nos cœurs. Amen. Amen.